Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Delphine Saltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
À la fin de Jean de Florette, le roman de Marcel Pagnol, le vieux César Soubéran écrit à Manon des Sources avant de se laisser mourir. Une longue lettre d'aveu, bouleversante, où il lui raconte comment il a fini par découvrir que Manon était en réalité sa petite fille. Il lui demande pardon pour tout le mal qu'il a fait à sa famille en bouchant la source qui aurait dû abreuver les œillets de Jean de Florette. Le papé, comme l'appellent les gens du village, comprend qu'il a détruit sa propre existence en voulant s'enrichir. C'est un épilogue qui fait du bien au lecteur. Le drame est bouclé, les fautifs démasqués, rongés par le remords, et les victimes enfin réhabilitées. Tout est accompli. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres histoires un peu similaires. De sombres affaires villageoises avec jalousie cadastrale, vieille famille paysanne et haine archaïque pour les nouveaux venus, les idéalistes, les modernes. Mais ce sont deux histoires d'aujourd'hui. Alors il y a aussi du label bio, des caméras de vidéosurveillance et une bonne dose de glyphosate. Surtout, ce sont deux histoires bien réelles, celles-là. Sans narrateur omniscient, ni dénouement apaisé. Pas de résolution, juste des vies empoisonnées, jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, racontées par Clément Baudet.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui, parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Tristan Arlot, j'ai 46 ans, et je vis à Saint-Canadé, au Puy Saint-Trépanade. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Je vis sur la commune depuis que j'ai 21 ans. J'ai travaillé dans la restauration jusqu'à 25 ans. Je suis rentré de l'étranger et je me suis dit, je veux travailler dans la nature. Je suis agriculteur depuis 2007, en agriculture biologique certifiée depuis 2012. Et on a développé un réseau de producteurs sur la commune et on crée des magasins collectifs. Avec mon épouse, en une dizaine d'années, on a créé une ferme familiale, qui est classique, hein, c'est un couple de travailleurs saisonniers, et c'est à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Nous, on fait essentiellement 20 variétés de légumes en plein champ, et une quinzaine de variétés différentes sous serre. Le 7 juillet 2020, on rentre dans les serres à 5 heures du matin, et on s'aperçoit qu'elles ont été lacérées au cutter. Je suis allé déposer une première plainte à la gendarmerie pour ça. 4 jours après, vendredi après-midi, on se rend compte que toutes les plantes à l'intérieur des serres quasiment commencent à tomber. Elles n'avaient plus de vigueur. Là, on se dit, ça y est, ils nous ont balancé quelque chose dessus. On ne savait pas quoi, parce qu'il n'y avait ni odeur ni couleur. Je repars à la gendarmerie, je redépose plainte pour destruction de culture, avec un désherbant ou un défanant, on ne savait pas ce que c'était. Les produits désherbants comme ceux-là, il faut à peu près 4 jours pour que ça fasse effet. Parce qu'en fait, ça passe par les feuilles, ça descend dans la tige, et c'est au moment où ça atteint les racines que ça tue la plante. Quand on comprend que c'est un pesticide, on s'est effondré parce qu'on s'est dit on a intoxiqué tous nos clients, qui sont des copains, et peut-être nos filles. Donc ça a été vraiment un effondrement pour nous, psychologique. On a envoyé un texto à tous nos clients, on les a prévenus au magasin, attention à ce que vous avez mangé le mercredi, les tomates cerises et les fraises, si vous les avez encore au frigo, il faut les jeter, et si vous les avez mangées, soyez attentifs à votre santé. Si vous avez des symptômes, il faut le dire, il faut porter plainte avec nous, quoi. Comme la deuxième vente, elle est le samedi, on n'a rien ramassé, évidemment, et on a tout retiré. Mais en revanche, ce qui a été vendu le mercredi et le jeudi, parce qu'on livre aussi d'autres personnes le jeudi, on n'a pas eu le moyen de leur dire « mangez pas ». Moi, dans mon cas, je me suis intoxiqué 4 jours durant par la peau, parce que nous, on travaille torse nu hein, dans les serres. Comme on est en bio, il n'y a aucun problème. Donc tous les végétaux touchent votre peau. Ensuite, j'ai inhalé énormément, puisque les tomates, au mois de juillet, ça fait 3 mètres de haut. Il faut imaginer, on passe à travers des buissons. Hein. Donc j'ai inhalé pendant 4 jours et aussi j'ai mangé. Quand vous travaillez de 5h à midi à 10h30, vous avez faim, quoi. Donc vous prenez une tomate, vous la mangez crue, vous prenez des fraises, vous mangez une barquette. Et c'est comme ça que je me suis intoxiqué 28 heures d'affilée en 4 jours. Et, J'ai commencé vraiment à cracher énormément. Quand je toussais, j'avais envie de vomir. Ça commençait à être désagréable, mais c'était supportable. Pendant 3 jours, l'état s'est vraiment, vraiment dégradé. J'avais la pupille qui était minuscule. Même dans l'obscurité, elle restait vraiment toute petite. Elle était réactive, mais elle était vraiment minuscule. J'avais des signes, mon médecin il m'a dit « c'est un problème neurologique, il faut vraiment, vraiment partir à l'hôpital ». Donc je suis parti aux urgences, ils m'ont mis des perfusions, je suis resté 3 ou 4 heures. 4 jours après, je voyais que ça allait toujours pas mieux. J'avais des troubles neurologiques, c'est-à-dire qu'on me demandait d'écrire quelque chose, j'y arrivais pas. Ou on me demandait de taper un numéro de téléphone sur mon clavier de mobile. Mon doigt ne faisait pas l'action. Là, je me suis vraiment affolé et je suis allé déposer plainte pour intoxication aux produits phytosanitaires. J'avais perdu 7 kilos en 10 jours. Et toujours craché, toujours envie de vomir. Des sudations abominables. Vous avez l'impression que c'est de la colle qui sort du corps. Vous avez besoin de vous laver 3-4 fois par jour. Et un énorme goût de sel dans la bouche. J'ai passé un mois dans cet état. Mais vraiment un mois épuisé. Et petit à petit, ça allait un tout petit peu mieux. Voilà, je sens que l'énergie revient tous les jours, vraiment. On appelle notre organisme certificateur bio, qui lui est habilité à faire les prélèvements, à les envoyer dans un laboratoire. Le laboratoire, lui, vous répond une semaine après. Donc pendant 15 jours, on ne savait pas quel était le produit actif. Le glyphosate, c'est le moins pire. Mais il y a des produits, c'est terrible. Ça se fixe sur les reins, ça se fixe sur le foie, et vous êtes sûr de vous prendre un cancer dans les années qui suivent. Et le laboratoire a renvoyé les analyses. Un, c'est du glyphosate. Mais deux, les doses employées, a priori, sont, je crois que c'est 15 fois ou 20 fois supérieures à la norme. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ça ont peut-être mis quasiment du glyphosate pur, alors que ça doit être dilué à 5% ou 3%, je crois. S'ils avaient mis que 3%, j'aurais pas eu de symptômes. Très peu. Hein. Ça m'aurait gratté, ça m'aurait démangé, j'aurais toussé. Mais là, avec des doses pareilles, c'est normal que le corps ait lâché. Pour moi, c'est le plus sidérant, c'est que des produits comme ça n'aient pas un marquage olfactif. La plainte a été déposée par notre avocat pour mise en danger de la vie d'autrui. Même si on se doute évidemment de qui a fait ça. On a déposé plainte contre X début août. Moi, ma compagne, notre entreprise et aussi un client de la ferme. Alors lui, il a été choqué parce qu'il va être grand-père. Sa fille mange des légumes chez nous. Elle était au 8e mois. Lui, il a dit, moi, je dépose plainte avec vous. C'est lui qui a choisi l'avocat. C'est lui qui, parce qu'il a vu qu'on était épuisé. Hein, donc c'est lui qui a tout pris en main. Et ensuite, l'avocat a fait son travail, quoi. Hein. Maintenant qu'on a fait le tour exact, ils ont pulvérisé 3500 mètres carrés de serre. La perte financière s'élève à peu près à 40 000 euros. Ensuite, nous, on perd la labellisation bio de ces espaces-là sous serre pendant 3 ans. Ce qui fait qu'on est obligé de racheter 3000 mètres carrés de serre, d'aller les mettre sur un autre terrain qui, lui, n'a pas été souillé, de remettre des bâches, remettre des fils, remettre l'irrigation. Ça, c'est un coût d'à peu près 20 000 euros. Hein. Et on n'avait pas les sous. Donc nous, on se posait la question de soit on réduisait complètement, soit on arrêtait. Mais finalement, mon frère qui travaille dans le crowdfunding me téléphone en me disant « il faut faire une cagnotte ». Moi, j'ai rien compris ce que c'était. Donc je lui ai dit « écoute, fais ce que tu veux ». Donc il a fait cette cagnotte et puis au final, on a été extrêmement surpris par la générosité des gens. Il y a eu plus de 2000 dons et on a récupéré 75 000 euros en un mois. Ça fait 5 ans qu'on subit des actes de malveillance sur notre ferme. Depuis qu'on a eu un développement qui nous a permis de vraiment gagner notre vie. Et on a subi de manière récurrente des attaques, soit sur nos biens, soit sur nos cultures, de manière toujours indirect, pour qu'on puisse ne pas incriminer certaines personnes. Et donc, on se doutait cette année qu'on allait encore subir quelque chose. Ensuite, que ce soit au glyphosate, de cette manière-là, en pleine cueillette, c'est un vrai choc psychologique. Parce que là, on se dit, mais les mecs, ils ont pété un plomb, quoi. Ils sont devenus fous. C'est des histoires de jalousie. Voilà, nous, on est arrivés en 2007, quand on a commencé un peu à travailler comme il fallait en 2009. Au village, ils nous ont appelés gens de Florette. Même entre vieilles familles, ils se font la guerre. Il y a des histoires pas possibles au village. Il y a des gens qui reçoivent des cercueils dans leur boîte aux lettres. Enfin, c'est pagnolesque, quoi. À mon avis, les personnes qui nous en veulent autant, ce sont des familles historiques du village, dont certains sont encore agriculteurs. Ils ont 60 ans, 65 ans. Et ben, ils perpétuent cette tradition de « on est chez nous ». Vous n'êtes pas les bienvenus, les règles, c'est nous qui les édictons, c'est clairement ça. Eux, la gendarmerie, ils s'en foutent. Hein. La loi, pas leur problème, ils règlent leurs affaires comme ça. Donc forcément, quand vous n'êtes pas de ce groupe-là, ben, c'est compliqué. Ils sont jaloux et surtout, c'est encore plus bestial que ça. C'est le bélier qui chasse le bélier concurrent. Tu viens pas sur mon territoire, ici on est chez nous. Nous on a 6 hectares en propriété, il y a 3000 hectares agricoles sur la commune. Faut imaginer, nous on est une goutte d'eau, rien. Et c'est déjà trop pour eux. C'est nos voisins. On les croise depuis 15 ans. Vous savez que votre voisin veut vous faire couler. Vous lui avez rien fait, hein. Vous lui dites bonjour, il vous dit bonjour. Il vous sourit, il n'y a pas de problème, mais il veut vous faire couler. J'ai eu le tort d'aller à l'entrée du village. C'est-à-dire que tant que je restais dans ma colline, il savait que j'étais pas un danger, parce que j'ai pas les bonnes terres. Et surtout, je leur faisais pas de concurrence et pas d'ombre en bas. Il y a aussi la plaine, la colline, si j'ai issu de la famille d'un tel ou pas, voilà. L'enquête est en cours. Moi, ce que j'attends, c'est que bah déjà, les coupables soient identifiés, arrêtés, sanctionnés de manière très très forte, que partout en France, on se dise, si jamais je fais ça, voilà ce que je risque. Parce que je pense qu'il y a plein de gens comme eux qui n'ont pas conscience de la gravité de cet acte. Eux, quand ils l'ont commis, je pense pas une seule seconde qu'ils se soient dit, c'est grave ce qu'on fait. Eux, ils devaient rigoler au bar du village le lendemain. Il devait se dire, oh, l'autre con, il va croire qu'il a pas arrosé ses tomates, qu'elles sont en train de mourir. Il faut que ce soit un électrochoc dans le monde agricole. Avec mon épouse, on n'a pas peur, on n'a pas de doute. On va continuer ce qu'on fait, on va le développer, on va essayer d'essaimer au maximum, de partager au maximum tout ce qu'on fait. Et puis, pour conclure cet épisode qui a été extrêmement violent, on s'est dit qu'on allait créer une petite ferme pédagogique et des jardins partagés à l'entrée de notre village, avec l'argent de la cagnotte. Pour que nos agresseurs passent devant tous les jours et se disent, ben nous on a pulvérisé du glyphosate dans ces serres, et ben eux ils ont fait des jardins partagés, une ferme pédagogique pour le village. Ça fait qu'aujourd'hui on sort plus fort de cette histoire.
Qui fait qu'il est déjà lourd.
Jeanne de Florette,
mais t'as toujours qu'il pleuve, Jeanne de Florette. Mais lui.
Les œillets ont été arrosés.
Dans les deux cas, on est du village, mais voilà.
Je suis copain avec la victime, je suis copain avec ceux qui sont accusés. Moi, les coups bas comme ça, au village, je crois pas, non. Pas dans le monde des paysans.
On le connaît pas, ce monsieur.
On le connaît pas, on sait pas d'où il vient, hein. On sait pas d'où il arrive. On connaît pas ses antécédents. Comme on dit, la vengeance, ça se mange froid. Demain, je me fais empoisonner, moi, pour 60 000 euros.
Ça vaut la peine de se faire attaquer.
Moi, je me fais empoisonner demain, moi.
Oui.
M'empoisonner moi-même.
Et ça fait plus fort que nous, hein. Tous les matins, on se lave le cul pour les brosser. On va un petit salaire.
Il a affaire de 3 mois, il a pris 75.
Ah là, il est fort. Bravo. Bravo, bravo.
il y a eu des relevés d'empreintes, il y a eu des relevés d'ADN, d'après ce que j'ai entendu dire. Pour savoir s'il s'est fait empoisonner, s'il s'est empoisonné tout seul, si, qui, quoi, comment. Oui, je ne peux rien vous dire, on ne peut pas vous dire qui c'est qui les a empoisonnés. Soit disant, il s'est fait empoisonner, mais encore après, tu sais savoir si... Et c'est vrai, je sais pas, moi, je sais pas.
Chacun en a notre propre opinion, mais bon, on ne peut pas se permettre d'en parler, parce qu'on peut se tromper, voilà, c'est tout.
C'est corté ici, on pourrait venir. C'est un village qui est comme ça, ici. Tout le monde ne pense, mais personne ne dit rien.
Des suppositions.
C'est tout, faites de la discussion.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Chantal, j'ai 46 ans maintenant, je vis sur Pouzillac et je suis donc éleveuse de chèvres. J'ai commencé cette activité il y a bientôt 7 ans. J'ai fait mes études dans la restauration. J'ai été serveuse, j'ai arrêté ce métier parce que j'ai eu mes enfants et que c'était plus compatible, et j'ai été assistante maternelle pendant 17 ans. J'ai toujours eu la passion des animaux depuis toute petite parce que j'ai grandi à la campagne, j'ai toujours été entourée. La vie m'a écartée de ça puisque j'ai dû faire des études et me retrouver en ville, et pour moi ça a été vraiment quelque chose de trop étouffant. Donc je suis revenue à la vie à la campagne et j'ai eu des animaux petit à petit, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des poules, des lapins et un jour des chèvres, et j'ai commencé par 2, puis 4, puis 6, puis 8 et puis maintenant je suis à 20. J'élève des chèvres qui sont laitières, qui produisent du lait avec une traite qui est matin et soir, et nous produisons du fromage de chèvre exclusivement. Pouzillac est un petit village de 650 habitants à peu près maintenant, qui est magnifique, et nous sommes sur la commune 6 agriculteurs, 4 hommes, 2 femmes, il y a 5 viticulteurs et je suis la seule productrice de fromage de chèvre. Quand on s'est installé, les premières chèvres étaient plutôt chez moi, elles ne sortaient pas trop, puis après on a commencé à les balader dans le village, et tous les gens du village se sont intéressés donc à cette production. Les assistantes maternelles venaient toutes voir les animaux avec les enfants qu'elles accueillaient, et ça fait un sacré petit mouvement de foule autour des animaux, et ça s'est très bien passé, les gens étaient contents. Alors un dimanche de mai 2018, nous sommes allés avec mon mari faire la traite du matin dans un pré où les chèvres étaient en pâture et en nettoyage. Et tout se passait bien, la journée était très grisâtre, il y avait un peu de frais, les seins de glace n'étaient pas passés, donc une journée plutôt froide et légèrement pluvieuse. Nous avons laissé les animaux pour repartir traiter le lait et nous sommes revenus le soir, comme on le fait à chaque moment, à 4h30 pour la traite du soir. Et là, mon mari est parti tout seul et il est arrivé devant un champ de cadavres. Nos animaux étaient pour certains déjà morts, d'autres étaient complètement agonisants, d'autres se tenaient à peine debout et n'arrivaient plus à se déplacer. Et ceux qui restaient debout et à peu près bien en forme étaient prostrés dans des coins de la terre. Et il a pris le téléphone et il m'a dit « Viens vite me voir, les animaux sont en train de crever, je comprends pas ce qui se passe ». Je suis descendue très rapidement et c'était un moment... où je me suis retrouvée complètement désarmée. Quand on voit ces animaux, c'était des gémissements, des cris de douleur. Voilà. Et elles se tortillaient, les jambes tout tendées. Enfin, on voyait qu'elles avaient un problème respiratoire, elles n'arrivaient plus à prendre l'air, elles n'étaient plus oxygénées. Les langues étaient bleues, les bouches... c'était vraiment pas beau à voir. Ces animaux agonisants, on ne sait pas quoi faire. Dans un premier temps, on a essayé de joindre les services vétérinaires. Personne ne nous a répondu. Malheureusement, le dimanche, il faut savoir que, en cas d'urgence, les animaux sont un petit peu laissés pour compte. Et aucun vétérinaire a voulu se déplacer pour venir euthanasier mes bêtes. J'étais complètement désemparée. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. C'était un moment où on perd tout. On est abasourdi, on ne bouge plus, on ne sait plus. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je vois mon mari autant atteint sentimentalement. Parce qu'il avait des attaches avec certaines des chèvres et une toute particulière qui était un peu plus âgée, qui était agonisante devant lui. Et il a dû la battre parce qu'il n'a pas eu le choix. Il en a fait des cauchemars pendant très 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 longtemps. Ce jour-là, j'étais convaincue que c'était un empoisonnement parce que une bête peut mourir subitement du matin au soir, c'est peu probable. Deux bêtes, pourquoi pas, mais 15, 18 bêtes, c'est pas possible. C'est pas possible. Un troupeau ne peut pas succomber comme ça en une journée et se retrouver mort ou agonisant. Dans un premier temps, il a fallu envoyer deux animaux en prélèvement au laboratoire du département pour pouvoir écarter tout risque de maladie et de contagion pour les troupeaux et les éleveurs alentours. Ensuite, une plainte a été déposée en gendarmerie pour pouvoir faire une enquête parce qu'il a été prouvé par le département qu'il n'y avait aucune maladie qui aurait pu tuer ces animaux, qu'ils étaient sains. Ensuite, les gendarmes ont demandé que d'autres autopsies soient faites. C'est une analyse qui est partie sur les laboratoires vétérinaires de Lyon, qui ont fait tout un tas d'analyses et de recherches toxicologiques. Ces recherches ont été infructueuses puisqu'ils ont pour habitude de trouver des produits dont ils connaissent les molécules et des produits types. Donc, ils n'ont pas fait de recherches approfondies. On n'a jamais vraiment su ce qui a pu être apporté aux animaux pour pouvoir les tuer. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi sur cet empoisonnement sont mortes uniquement mes chèvres laitières et les jeunes laitières et les chevrettes. Les brebis qui étaient dans le même pré n'ont jamais été touchées. Au retour de toutes les analyses, de tous les laboratoires qui ont été faites, il y a une seule certitude, c'est que les animaux sont morts par une intoxication toxicologique. Il n'y a aucune maladie, rien n'a été décelé sur l'état des animaux. Mais on n'a jamais su de quoi ces animaux étaient morts. Les gens de Pouzillac ont été un peu effondrés parce que... Dans leur petit village, il faut rappeler qu'il n'y a que 650 habitants sur la commune, que quelqu'un ait pu faire ce genre d'acte, c'est un peu improbable. En fait, ça arrive souvent aux autres et ils ne pensaient pas que ça puisse arriver sur la commune. Et beaucoup ont été solidaires, beaucoup sont venus m'aider, beaucoup... voilà. À ce moment-là, nous étions en pleine croissance. Je venais d'avoir mes chèvres dans une période de lactation. C'était mes meilleures laitières. Ça faisait 4 ans que j'essayais de monter ce troupeau, que j'essayais d'avoir de bonnes laitières. Et après l'empoisonnement, en fait, je n'avais plus rien. Il me restait les vieilles chèvres. Et je n'avais plus de chevreaux, je n'avais plus de quoi recommencer. Donc je ne savais pas si j'allais pouvoir repartir. Et on s'est posé la question de savoir si on allait continuer, parce que c'était pas le premier acte de vandalisme que nous avions vécu, que c'était très douloureux et que la souffrance et l'agonie des chèvres nous a beaucoup perturbés. On a eu du mal à se relever de ça. Et j'ai dit, après tout, pourquoi pas ? La solidarité qui a été autour de nous avec des dons de foin pour pouvoir pallier à l'alimentation des animaux qui étaient restés vivants. On s'est dit, mince, les gens croient en nous. Et on va leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort et qu'ils pouvaient continuer de croire en nous. Donc à ce moment-là, j'ai fait le choix de vendre mon troupeau de brebis parce que ça m'a permis de rentrer de l'argent, de racheter de nouvelles chèvres et de recommencer. Depuis, on a installé des caméras sur des points stratégiques. Donc, il y en a plusieurs. Ce sont des caméras qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, moi, j'ai toujours été convaincue que c'était quelqu'un de la commune qui avait fait ça. Effectivement, nous ne sommes pas de nombreux agriculteurs sur la commune, mais je pense que la jalousie et le succès peuvent provoquer ce genre de comportement chez certaines personnes. En fait, l'histoire, elle est toute simple. Je pense qu'il y a un agriculteur, pour des raisons personnelles et professionnelles, qui m'en veut sur la commune. Et malheureusement, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Et on vivra avec. C'est pas compliqué. On est deux femmes sur la commune. Il y en a une de trop. Donc, à la fin de l'enquête, il n'y a pas eu d'aboutissement parce que certainement, il devait manquer des preuves. Il n'y a pas eu de résultat d'analyse positif sur un produit toxique. Je pense que ça aussi, ça a joué en défaveur. Et malheureusement, ça s'est arrêté là. Je me dis, est-ce que c'est parce que c'était seulement des animaux? Est-ce que le délit n'était pas assez important? Est-ce que ça rentre pas dans la bonne case? Je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai été très, très, très en colère. Depuis l'empoisonnement, est-ce que ça a fait peur? Est-ce que ça a été trop violent? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir posé des caméras, le fait de ne plus sortir les animaux en pâture, puisque maintenant ils sont sur un terrain clos en permanence, je n'ai plus de gros problèmes. J'ai de temps en temps un petit bout de grillage coupé, j'ai des petites banalités, mais je n'ai plus de gros problèmes, c'est terminé.
C'était « Agriculteur, la vie empoisonnée », un reportage de Clément Baudet, réalisé par Anne-Laure Chanel, mixé par Julien Douminc et Bruno Mourlan. Attaché de production Mélissa Foust, merci à Tristan, à Chantal et aux habitués du bar du Puy Saint-Réparade.
When we were gentle, the ground seemed soft beneath my feet.